Radio Okapi.
C'est l'heure de vous informer sur Radio Okapi et nous commençons tout de suite par l'impact des pluies à répétition dans quelques quartiers de Mbujimayi. Le constat, à n'en point douter, n'est pas du tout reluisant. Vous suivrez le récit de notre permanente sur place. Enseignement supérieur et universitaire au Kassai Central, en tout cas ici, les étudiants des Lises ne sont pas du tout contents. L'argent qu'ils doivent payer est fortement au-delà de leur bourse. Ils ont manifesté leur colère. Ils veulent que les autorités baissent les frais. Patrice Barr parle des droits humains en RDC. Il est nouveau directeur du BCNUDH, c'est notre invité. Pour lui, il y a amélioration quant au respect des droits de l'homme. Il insiste par contre sur la lutte contre l'impunité. Ce décor ainsi planté, il ne vous suffit que de garder cette fréquence pour découvrir plus d'infos de votre milieu. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à ces infos midi sur Radio Okapi. Présentation de Billy Van Lutumba au Kassai Oriental. La pluie de dimanche dernier a fait des dégâts matériels importants en Mbujimayi. Plus de 100 familles de trois quartiers de Mbujimayi vivent sans abri depuis dimanche soir après une pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville. Il s'agit des familles dont les maisons ont été érigées aux alentours des quartiers Kalundu Herveya dans la commune de Bipemba ainsi qu'au quartier Masinka dans la commune de Djoulou loin de l'aéroport. Les familles sinistrées des quartiers Kalundu et Herveya estiment que les eaux des ruissellements qui ont inondé leur quartier provient de l'aéroport où s'exécutent les travaux des réhabilitations et de modernisation de l'aéroport de Bipemba à Mbujimayi. Dans un communiqué diffusé lundi soir sur la RTNC, le vice-gouverneur demande aux familles sinistrées d'être calmes. Des explications avec Esther Ndalafina.
C'est depuis dimanche soir que les femmes, les hommes et les enfants des quartiers Kalundu, Herveya et Masinka passent la nuit à la belle étoile après la pluie de près de 10 heures qui s'est abattue sur la ville. Les victimes de dégâts de pluie n'ont pas hésité de citer l'entreprise qui exécute les travaux de modernisation de l'aéroport pour n'avoir pas bien canalisé les eaux de ruissellement. Les eaux provenaient de l'aéroport. Lorsqu'on a réhabilité la route, l'eau qui partait souvent dans l'autre sens a pris la direction de notre quartier. Les maisons, les toilettes se sont écroulées. Regardez comment nous vivons maintenant. Nous sommes dehors. Lundi dernier, le vice-gouverneur est allé se rendre compte des dégâts de cette pluie. Julie Kalinga était accompagnée des directeurs provinciaux de l'OVD ainsi que celui de la RVA. Romain Chinyama, commandant de la RVA, promet de s'y investir pour éviter le désastre.
Nous sommes en train de travailler avec l'OVD. Il y a beaucoup de préalables. C'était un cas spécial. Même les avions rebroussent les chemins.
Après avoir entendu les cris d'alarme des familles sinistrées, Julie Kalinga, vice-gouverneur, a publié un communiqué dont voici un extrait.
C'est ici l'occasion pour moi d'exprimer toute ma compassion aux victimes de cette catastrophe naturelle. Au gouvernement central, nous sollicitons une assistance humanitaire en faveur de compatriotes sinistrés.
Signalons qu'une commission ad hoc a été instituée pour évaluer les dégâts. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Et dans la province du Kwilu, cela fait plus de deux mois que le trafic reste coupé entre les territoires de Bulungu et d'Idiofa. À l'origine, le pont 12 apôtres sous la rivière Luano à la frontière entre les deux territoires est dans un état de dégradation très avancé et sur le point de s'écrouler. Or, cette route des dessertes agricoles facilitait aussi le ravitaillement de la ville de Kikwit en produits agricoles. D'après la société civile de la commune de Lukolela dans la ville de Kikwit, cette coupure du trafic a des répercussions sur cette ville qui, à ce jour, est asphyxiée. Alain Laoui, son président, plaide pour la réhabilitation de ce pont afin de sauver les populations qui sont en détresse. Le point avec Irène Beaumont.
J'étais depuis Ben Lirette sur la rivière Luano qui relie les territoires de Djofa et celui de Bulungu au Kwilu. Le pont 12 apôtres est sur le point de s'écrouler. Du coup, le trafic est déjà coupé sur cette route de dessertes agricoles qui est d'importance très capitale pour les échanges commerciaux entre ces entités. C'est Alain Laoui de la ville de Kikwit qui alerte.
Le pont est à l'état de délabrement total. Il reste moins, il va s'écrouler. Là où il y a les pieds, la rivière a débordé. Il n'y a plus de circulation là-bas. Ça fait plus de 2-3 mois qu'il n'y a plus contact par véhicule entre Idiofa et Bulungu.
À l'heure actuelle, plusieurs produits agricoles pourrissent faute d'évacuation dans les centres de consommation, notamment à Kikwit, a indiqué Alain Laoui qui plaide pour la réhabilitation de ces ponts.
Nous lançons un SOS à toute personne de bonne volonté, aux autorités politico-administratives qu'elles volent au secours de cette population. Les produits sont en train d'être périmés là-bas. Il n'y a plus d'argent. La crise est entrée et Kikuit aussi a des conséquences de cette route-là. Au moment où nous parlons, le manioc devient rare.
Contacté à ce sujet, le ministre provincial des infrastructures du Kwilu entend prendre langue avec l'office des routes Kikuit pour des dispositions utiles. Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
Enseignement supérieur et universitaire à Kananga. Les étudiants de l'Institut supérieur d'études socialisées sont en colère contre la surfacturation des frais académiques. ISES exige la baisse des frais académiques fixés par le comité de gestion de leur institution. Alors que l'année passée, ils disent avoir payé 565 000 francs. Ils ont constaté plutôt que pour celles en cours, les frais sont passés à 1 million de francs avec des rubriques inventées. À travers une marche organisée à Kananga, ces étudiants s'opposent à cette situation et demandent l'implication des autorités de la province. François Kadima nous en parle.
Ces étudiants de l'Institut supérieur d'études sociales ISES sont descendus dans la rue pour dénoncer la revue à la hausse de frais académiques au sein de l'institution. Accusant le comité de gestion de mauvaise foi, ils soulignent qu'il a inventé des rubriques pour amener le frais académique à 1 million de francs congolais, alors que l'année académique passée, ils ont payé 565 000 francs congolais. Dans le document portant leurs revendications, ils indiquent entre autres que le comité de gestion impose le frais pour la pratique professionnelle pendant qu'il ne concerne pas toutes les filières. Il parle également de frais d'inscription imposés à tous, le frais pour la cuisine diététique, pour la nutrition. Ils évoquent également le frais des laboratoires qui, selon eux, sont réservés à ceux qui font la médecine. Face à ces rubriques qui ont gonflé les frais académiques, ces étudiants invitent le comité de gestion à la raison et au bon sens. En réaction, le directeur général de l'ISES Kananga rejette ces allégations. Le professeur bien-aimé Kabemba souligne que les frais académiques ont été fixés suivant la circulaire du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
La Force syndicale nationale FOSINAT, syndicat des enseignants section du Nord Kivu, alerte les autorités sur la disparité du taux des retenues des frais des comptes bancaires sur le salaire des enseignants en province. Selon le président provincial de cette force syndicale, il s'observe un taux parallèle des retenues bancaires pour les enseignants, alors que ces derniers ont le même salaire qu'ils touchent à la même banque. Bahala Chamavu, innocent, n'hésite pas à qualifier cette pratique de magouille. Il demande aux autorités de clarifier cette situation avec les banques payeuses. Il est au micro de Denise Loukesson.
Certes, nous sommes tous d'accord avec la bancarisation des salaires des enseignants. Mais nous sommes étonnés de voir que les banques sont en train de ponctionner l'argent sur les salaires des enseignants à leur propre gré. Donc, chaque banque ponctionne comme elle veut. À l'Access, on peut couper un enseignant un montant jusqu'au-delà de 20 000 francs par mois. Et là, ça ne fait rien. À la TMB, même chose. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir que les banques payeuses qui ont réussi le marché de payer les enseignants, qui sont devenus des gens qui ponctionnent l'argent sur les salaires des enseignants. C'est pour cette raison que nous sommes en train de donner cette sonnette d'alarme, parce que trop c'est trop. Et nous demandons au gouvernement congolais de nous fixer quel est le vrai taux de retenue du frais de compte sur les salaires d'un enseignant. C'est inconcevable que dans une même ville, le taux de retenue soit différent pour les mêmes salaires, pour les mêmes enseignants.
Santé, une vingtaine de personnes bénéficient d'une prise en charge logopédique gratuite à Kinshasa. Il s'agit d'un programme organisé par l'ONG Opération Smile RDC du 3 au 7 avril en faveur des personnes ayant une difficulté de langage à cause souvent de lèvres fendues. Ainsi, cette discipline paramédicale a donc pour but d'aider ses patients à corriger cela. Reportage de Blaise Shindani Kambala.
Au total, une vingtaine de personnes sont prises en charge dans le cadre du programme organisé par Opération Smile RDC. Il s'agit d'une structure qui offre des soins de santé aux personnes atteintes de malformations labio-palatines, communément appelées bec de lièvre. Pour les bénéficiaires, c'est une joie immense.
L'enfant, il avait beaucoup de difficultés pour parler. Maintenant, c'est ça. Il commence à bien parler. Il peut aussi appeler quelque chose, vous écoutez, qu'est-ce que l'enfant est en train de me dire. Je suis vraiment très contente, j'ai béni mon Dieu.
Pour ce qui est de l'importance de ces soins, le logopède Corneille Ekolele affirme qu'ils sont indispensables.
Quand quelqu'un est atteint de malformation palatine, il nasalise. Une fois, on a opéré, on a rétabli la fente palatine, on est obligé de lui apprendre à bien parler. Si on ne lui apprend pas à parler, il parlera toujours dans le nez.
Docteur Franck Nzumba, coordonnateur de programme d'opération SMILE RDC, souligne quant à lui que ces traitements constituent l'une des étapes de la prise en charge intégrée. Notez que toute personne atteinte de la même pathologie peut contacter cette structure pour une prise en charge gratuite au 082 73 57 179 ou au 089 94 28 185.
Dans la province du Maniema, la société civile Force Vive du Maniema sous antenne de Bassongué 1 alerte sur la rupture des médicaments antituberculeux dans la zone de santé rurale de Samba depuis un mois. Son président Abedi Kazimoto Dala s'appelle le partenaire de lèpre et tuberculose à une assistance rapide en médicaments. On l'écoute, il a été joint par Florence Kizalunga.
Il s'observe malheureusement une rupture des tuberculostatiques dans toutes les 14 structures sanitaires de la zone de santé rurale de Samba, c'est-à-dire 12 centres de santé, un centre hospitalier intégré et l'hôpital général de référence, et cela depuis un mois. Mais c'est grave et encore un danger à la communauté qui se verra contaminé en masse car les patients dépistés positifs à la tuberculose dans toutes les aires de santé se voient privés de médicaments alors que certains d'entre eux sont en cours de la prise des molécules et les autres n'ont même pas encore commencé le traitement. Ceci occasionne la persistance et la propagation des microbes au risque d'assister à une hécatombe dans les jours à venir dit à la tuberculose. À cet effet, nous implorons aux partenaires de lèpre et tuberculose à un approvisionnement ab irato antibiotique pour échapper aux cas de mortalité qui ne seront pas à deviner dans la zone de santé rurale de Samba.
Contactez le médecin coordonnateur du programme de lutte contre la lèpre et la tuberculose, confirme l'information. Dr Ngongo Omerunga a fait savoir que le conflit de leadership au sein de la centrale d'achat et de distribution des médicaments essentiels CDR Kamema, qui est à l'origine car on ne distribue plus les médicaments. Nord Bangui à présent. Les infirmiers de la zone de santé de Guadolité réclament leur prise en charge par le gouvernement quant à leur salaire et primes de risque. Parmi la centaine d'infirmiers en fonction, peu seulement sont payés. Conséquence, ces personnes sanitaires vivent dans des conditions inhumaines avec leurs dépendants. Pourtant, indique-t-il, ils sont constamment exposés lors de l'administration des soins aux malades et de la manipulation de leurs effets. Avec l'avènement d'un nouveau ministre de la Santé, la présidente du syndicat des infirmiers de la zone de santé de Guadolité demande une solution urgente. Pascaline Dingo a lancé un SOS aux autorités nationales au micro de Paul-Richard Malengela.
Nous tournons tout autour de l'argent dans le sens que quand on travaille, on a besoin de quelque chose. Nous prestons, mais il n'y a pas tous les personnels qui ne reçoivent pas les primes, des risques ni des salaires. Et ce qui nous dérange, nous cherchons à ce qu'on puisse donner à tout le monde quand même sa prime ou soit son salaire, ça sera intéressant. C'est ça notre souci. Nous sommes nombreux. Plus de 100, il y a peu seulement qui reçoivent les primes et les salaires. Nous vivons seulement par la grâce de Dieu, par des primes locales. Et cela, c'est en fonction de la fréquentation. Si cela s'élève, on a quelque chose de 50 000. Si c'est diminué, nous avons quelque chose de 20 000. Mais 20 000 francs, tout ça pour un responsable, c'est vraiment insuffisant. Bon, notre souhait est que le chef d'État puisse voir les problèmes des personnels de santé. Que tout le monde qui preste ou qui vient au travail du 1er au 30 puisse recevoir sa prime ou soit son salaire. Il y a des gens qui ont commencé le travail avant moi, 10 ans, 11 ans, 15 ans actuellement et ont rien. Et ça fait mal au cœur.
À Nitouri, 5 personnes dont 3 femmes ont été tuées par les présumés ADF et environ 10 personnes sont portées disparues à Kalakala et Landavi, deux localités situées à 6 km à l'est de Komanda dans le territoire d'Irumu. La société civile locale déplore la recrudescence des attaques des rebelles des ADF depuis la semaine dernière dans cette partie d'Irumu et a entraîné le déplacement des nombreux habitants. Cette structure demande aux autorités compétentes de renforcer la sécurité dans la région pour permettre à la population de vaquer aux activités agricoles qui sont paralysées dans plusieurs villages.
Actualité internationale.
Ici à Kinshasa, il est 12h14. Le président kenyan est en visite au Rwanda depuis ce mardi. William Ruto a rencontré son homologue rwandais Paul Kagame. La crise sécuritaire dans l'est de la RDC notamment était au menu des discussions alors que le torchon brûle toujours entre Kinshasa et Kigali. Les deux chefs d'État ont ainsi convenu que l'instabilité dans la région exigeait une attention constante, saluant néanmoins les développements positifs observés dans le Nord Kivu et le déploiement des contingents burundais et ougandais dans la zone. La situation sécuritaire au Soudan du Sud et en Éthiopie a aussi été évoquée. Trois médecins guinéens ont été reconnus mardi coupables de la mort d'une jeune femme des suites d'un viol au sein d'une clinique privée dans une affaire qui a choqué le pays, a constaté un journaliste de l'AFP. Massila, une secrétaire de 25 ans, est décédée en 2021 en Tunisie où elle avait été évacuée pour des soins après avoir été violée dans un hôpital de Conakry, avait à l'époque annoncé le gouvernement guinéen. Mardi, un tribunal a déclaré Damiala, Patrice Lama et Célestin Milimuno coupables des coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner et d'avortement. Milimuno et Patrice Lama ont également été condamnés pour viol. Un quatrième médecin, Sebori Sissé, a lui été reconnu coupable de mise en danger d'autrui.
L'invité.
Comme dit, c'est le nouveau directeur du bureau conjoint des Nations Unies BCNUDH, Patrice Vahar, qui a participé le 30 mars dernier à Genève à une session consacrée à l'évaluation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Tout en reconnaissant les efforts fournis par les autorités congolaises en la matière, le haut fonctionnaire de l'ONU estime que le domaine des droits de l'homme en RDC reste encore un vaste chantier qui en demande davantage et exige la mobilisation et l'implication de tous. Patrice Vahar répond aux questions de Honoré Missenga Kalala.
Directeur Patrice Vahar, bonjour.
Bonjour.
Il s'est tenu le 30 mars dernier à Genève une rencontre sur l'évaluation des droits de l'homme en République démocratique du Congo, ou plus exactement, le dialogue interactif sur la RDC. Alors, quels ont été les grands messages qu'on peut retenir de ce dialogue interactif?
Plusieurs messages. Le premier, je crois que c'est un avis partagé, c'est que la RDC en tant qu'État est très ouverte à échanger, à exposer sur la situation, les défis en matière des droits humains, mais aussi les efforts et les progrès qui ont été réalisés par la RDC et tout ce qui reste à faire avec les mécanismes onusiens des droits de l'homme. Ça, c'est un très bon signal, c'est assez positif parce qu'à partir de ce moment-là, tout devient possible, c'est-à-dire qu'on peut passer en revue tous les défis, vraiment sans faux fuyant, mais également examiner ce qu'on peut faire pour solutionner ces défis-là. C'était ça un peu l'esprit. Bien entendu, à la fois le haut commissaire Volker Türk des droits de l'homme, le représentant de la RDC, en l'occurrence Paul Ampole, qui représentait le ministre des droits humains, Madame Keïta, la représentante spéciale, tout le monde est intervenu sur, premièrement, les avancées qui ont été réalisées. On a beaucoup salué tous les développements qu'on a eus ces derniers temps, notamment la loi sur la protection des minorités pygmées, la loi sur la protection des droits des personnes vivant avec handicap et les autres lois qui sont en cours. Évidemment, toute la situation des violations des droits humains qui ont cours ici et qui font l'objet des rapports périodiques que nous présentons tous les mois, y compris aussi avec la collaboration de la radio Okapi. Aucun sujet n'a été passé sous silence, je dois le dire. La situation à l'Est, bien entendu, fait l'objet d'une attention particulière, mais aussi tout ce qui peut être fait pour avoir des élections inclusives, apaisées, où les cœurs et les langues sont désarmés.
Monsieur le directeur, si on devait faire un bilan de 2017 au premier trimestre 2023, dans quelle direction va la courbe des droits de l'homme en RDC, sincèrement parlant?
Vous posez la question la plus difficile à un acteur des droits humains. Et sincèrement parlant, j'étais avec les membres du Conseil de sécurité lorsque nous avons visité les cas de personnes déplacées dans la région de Goma. J'ai été frappé par ce que j'ai vu. Donc aussi longtemps que ces mamans ou bien ces enfants sont obligés de s'interroger sur leur place dans la société, je ne pourrai jamais me satisfaire de ce que la situation des droits humains a évolué. Mais en même temps, il est vrai et objectif de dire que beaucoup d'efforts ont été faits par les autorités congolaises pour faire avancer les droits humains. Mais beaucoup reste à faire. Beaucoup reste à faire. Ces conflits, cette guerre, pour moi, ce n'est pas le destin des Congolaises et des Congolais. Et donc chacun d'entre nous doit se sentir interpellé. On ne doit pas dormir lorsqu'on voit que les promesses de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont on observe les 75 ans aujourd'hui, restent illusoires pour la majorité de nos parents. de nos enfants. Donc c'est cela. Vous me demandez dans quelle balance ça se pose. Je n'ai pas de bonnes nouvelles à présenter, malheureusement. Je ne dis pas que c'est pire, je ne dis pas que c'est meilleur, mais je dis qu'on a du travail encore à faire. Et ce travail-là, ce n'est pas simplement à l'endroit des autorités, c'est chacun d'entre nous. Vous, journalistes, votre rôle, c'est de nous aider à véhiculer les messages qui rassemblent, ceux qui émancipent, ceux qui permettent de voir en l'autre, non pas la différence, mais ceux qui permettent de voir en l'autre l'image de soi-même. Je crois que c'est important parce que souvent, ce sont les peurs et les anxiétés qui amène les gens à repousser les autres. Donc il y a un chantier immense. Si vous me demandez, je dirais, chaque jour nous devons faire encore et un peu plus pour faire avancer l'agenda des droits humains à RDC.
Le prochain rendez-vous sur la RDC?
Ce sera au mois de septembre. Nous nous retrouverons de nouveau à Genève. Nous allons faire le bilan. Donc ça veut dire que nous avons juste quelques mois pour au moins avancer sur ce que je venais de dire tantôt, c'est-à-dire une vaste campagne de sensibilisation sur la dimension humaine de tout ce que nous faisons pour que lorsque viendra le moment des élections, que nous ayons plus d'avancées sur la question de justice et de lutte contre l'impunité.
Directeur Patrice Sébard, merci.
C'est moi qui vous remercie et merci à vos auditeurs.
Fidèles auditeurs, c'est avec plaisir et gratitude pour votre confiance que je vous ai présenté ce journal grâce à la prise de son et la mise en onde de Polydor Basunga et la préparation de Élisée Tikota Martin Sebujango et de l'ensemble de toute la rédaction.